crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Bonjour et bienvenue dans votre série de l'été. Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris, au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel. C'est la société, l'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elle raconte. Je voudrais vous emmener aujourd'hui, ou en tout cas faire un petit détour, par les abords de Paris. À quelle époque sommes-nous? Nous sommes en 1876. Cette histoire commence à Clichy, contre le 18e arrondissement, près de Levallois-Perret, et de ce qui s'appellera bientôt le quartier de la Défense. Nous sommes de l'autre côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le périphérique. Nous ne sommes donc pas tout à fait à Paris, et ça se voit. Les grands aménagements urbains commencés sous le Second Empire, sous Napoléon III, ne sont pas arrivés jusqu'ici. On est très loin des belles avenues, des beaux boulevards, mis en chantier par le baron Haussmann. Nous sommes au début du mois de novembre 1876. Il fait froid, le ciel est bas et gris. Deux garçons nous emmènent vers la Seine. Ils doivent avoir, disons, entre 8 et 10 ans. Ils viennent du quartier des Chiffonniers, pas loin de là. C'est le quartier des gens de rien. Ils vivent dans des baraquements, au mieux dans de petites maisons, parfois en terre. Ce sont les miséreux qui s'entassent aux abords de Paris. Les Chiffonniers, ils vivent de ce qu'ils ramassent. Des débris, des détritus, des morceaux de tissu, des os, du métal, des objets de toutes sortes. Qu'ils gardent, mais surtout qu'ils revendent. Ils sillonnent les rues. On les reconnaît, oui. Ils ont une hotte sur le dos et un bâton terminé par une pique ou un crochet. Et ils ramassent. Et ils entassent. Ils poussent jusque dans les beaux quartiers, au cœur de Paris. En tirent tout ce qu'ils peuvent en tirer. Mais il y a, chez ces miséreux, plus miséreux encore. Ces garçons-là, ceux que nous suivons, ils ne font pas les beaux quartiers. Ils longent la Seine à Clichy. À Clichy, ce n'est pas la Seine du Pont Neuf ou du Pont des Arts, ce n'est pas un long fleuve romantique. Ici, c'est le déversoir des Parisiens. Ce sont tous les égouts de Paris, ou presque, qui se vident ici, dans la Seine. Le collecteur de Clichy déverse un torrent noirâtre. Et ça se répand dans l'eau, ça s'étend dans les flots. Longue et large, une nappe noire et graisseuse, chargée de débris, de morceaux, de tout, de la matière organique, des légumes, des bouchons, des cheveux, des poils, même des cadavres d'animaux. Tout ce qui n'est pas emporté vient s'amonceler près de la rive, et ça fermente. Il y a des bulles à la surface. C'est vaseux, c'est graisseux. Les deux garçons y sont de bon matin. Ils ont l'œil. Ils savent distinguer ce qui va les intéresser. Mais ce matin-là, il y a quelque chose qui attire leur regard. Ça a l'air plutôt imposant, trop grand pour avoir été rejeté par le collecteur. C'est une masse grise, un paquet, on dirait. L'un des deux garçons descend de la berge, s'avance, pieds nus dans la vase. Il essaie de l'attirer à lui, avec son crochet. Ah, ça paraît lourd. Le deuxième garçon descend lui aussi. Ils y vont ensemble, ils l'empoignent. Il y a des cordes, ils tirent. Ah oui, c'est lourd. Ils parviennent à le hisser vers la berge. C'est un paquet en tissu gris ficelé. Et il est lesté avec trois pavés, énormes. Mais qu'est-ce que c'est? Il défend les cordes. Ils ouvrent le tissu et ils poussent un cri, tous les deux. Ils ont un mouvement de recul, c'est une vision d'horreur. C'est une tête et un corps. Enfin, une partie de corps. Une tête et un tronc, avec les bras. Il se lève et s'encourt, le cœur battant dans tout le corps, dans les yeux et jusque dans les veines. Les deux garçons sont revenus avec un policier. L'alerte a été donnée. Il y a du monde à présent, sur le bord de la Seine, près du paquet. Il y a 3 policiers, en uniforme, ainsi qu'un officier de police et 2 hommes en pardessus noirs et haute forme. Autour d'eux, tenus à distance, les curieux. D'abord en petit groupe, et à présent, ouais, ils sont des dizaines d'hommes et de femmes et d'enfants. Les miséreux des environs, des loqueteux, ceux de Clichy, et ceux qui viennent de Saint-Ouen, le village voisin. Avant les autres, avant ceux qui viendront de plus loin, et ceux qui auront les moyens de venir en fiacre, les bourgeois de Paris, hommes et femmes qui vont aller goûter le crime et le sang. Enfin, s'ils ne parviennent pas à se contenter du journal. Les journalistes, ceux qu'on appelle déjà des reporters, on les reconnaît. Ils prennent des notes. Dans un petit carnet, ils se pressent autour du cadavre et ils jouent des coudes pour être au plus près, interroger les policiers et les 2 enfants. Un fiacre se fraye un passage péniblement. Le cocher crie, il hurle, il insulte. L'un des policiers fait de la place. Un autre vient lui prêter main forte. La portière s'ouvre. Un homme en descend. Par-dessus noir, haute forme. Dans la main, une trousse en cuir. Celle d'un médecin. C'est Bergeron, Georges Bergeron, le médecin légiste. On va avoir besoin de lui. Il s'approche. L'un des policiers soulève une partie du drap. La foule, autour et sur la pointe des pieds, pour voir. Bergeron n'a pas l'habitude de laisser paraître ses sentiments. D'ailleurs, il n'éprouve pas grand-chose, en général, devant un cadavre. Mais là, ouais, il hausse les sourcils, un bon moment. Et il reste en silence, un bon moment. L'un des 2 hommes, en bourgeois, lui adresse un regard de connivence. Ils se connaissent. Ils se connaissent bien. « On ne voit pas ça tous les jours !» L'homme, en bourgeois, par-dessus noir, haute forme noire. Il a une 50aine d'années. Il est mince, sec, le visage allongé, un grand front, des cheveux blonds qui grisonnent doucement. C'est Étienne Jacob, commissaire et chef de la sûreté parisienne. L'autre, le deuxième, celui qui l'accompagne, c'est Fouquetot. Élie Fouquetot, inspecteur à la sûreté. Ce sont les hommes de la rue de Jérusalem, avant que la sûreté déménage un peu plus loin, sur le quai des Orfèvres. Il ne voit pas ça tous les jours, Bergeron. Enfin, il a déjà eu des corps sectionnés, éviscérés, des choses vraiment pas belles. Il a sans doute de quoi tenir le plus beau catalogue des horreurs dont l'homme est capable. Mais là son visage, on dirait un visage de gorgone. Vous savez, le visage de Méduse. La tête de Méduse, grimaçante. La Méduse dont Persée vient de couper la tête. Et son regard, terrible. Les yeux sont révulsés, blancs, mais ils ont l'air de vouloir sortir de la face. Et la bouche, c'est la bouche surtout, avec une grimace de souffrance. La bouche ouverte, largement ouverte, et à jamais. Figée sur un cri qui ne se termine jamais. On dirait un homme. Il a l'air jeune.
On dirait un visage d'enfant, non ?
Risque le commissaire Jacob. Un visage d'enfant ? Pas si sûr. Un enfant sur un corps d'adulte. Est-ce possible ? Le médecin rectifie.
Ce n'est pas un enfant, commissaire.
Il a soulevé le drap jusqu'au bas-ventre. C'est un buste de femme. Enfin, un tronc. Mais ses cheveux, alors ? Presque rasés. Bergeron poursuit.
Des cheveux aussi courts, ça ne se voit pas n'importe où, si vous voulez mon avis.
Jacob reste sans rien dire. C'est l'inspecteur qui a une idée. Dans les couvents, on leur coupe les cheveux aux bonnes sœurs. Le commissaire Jacob réfléchit. Une religieuse, oui. Elles ont les cheveux coupés courts sous leur voile. Il n'y a que là, non, que les femmes font abandon de leur chevelure. Il relève la tête. On dirait que ça s'agite un peu plus loin. Trois ou quatre enfants courent vers eux. Avec de grands gestes, on les laisse passer.
« Monsieur le commissaire ! Monsieur le commissaire !»
Ils sont essoufflés. Ils veulent parler, mais ils tombent en arrêt sur ce visage. Décomposé, tordu. Celui qui a l'air le plus âgé bredouille sans quitter le visage de la morte, du regard. Il désigne le bord de Seine, un peu plus loin, en amont.
« Il y en a un autre, monsieur !»
Un autre paquet gris, empaqueté de la même façon. On le tire sur la berge, et tout autour, c'est un long murmure, de la curiosité mêlée d'effroi. On ouvre, délicatement. Il y a des cris, puis le silence. Le plus grand silence. Ce sont deux jambes entourées d'un tissu. Bergeron n'a pas sourcillé cette fois, mais il a l'air intrigué. Comme s'il remarquait quelque chose que seul un homme de l'art, habitué à la vue des corps morts, des membres, peut percevoir. Le corps, le tronc et les jambes, tout ça est coupé proprement, comme par quelqu'un qui a des connaissances en anatomie. Bergeron fait un signe au commissaire. Il lui montre la découpe juste sous l'entrejambe.
C'est du travail soigné, si je puis me permettre.
Et si c'était un médecin? Ou alors des étudiants en médecine, qui se sont livrés à des exercices sur un cadavre. Enfin, il le sait, Bergeron. Les cadavres qui servent aux exercices, ils ne terminent pas dans la Seine. On leur donne une sépulture, on les enterre proprement. Ou alors c'est une farce d'étudiants. Ils en sont bien capables, n'est-ce pas? L'inspecteur Fouqueteau est accroupi près des jambes. Il saisit ce tissu qui les entourait.
On dirait un jupon, commissaire.
Le corps, les deux parties, haut et bas, sont portées à la morgue, sur l'île de la Cité, quai de l'Archevêché, derrière Notre-Dame. Le corps est exposé sur la dalle, comme on dit. L'attroupement qui s'était formé sur les bords de la Seine, à Clichy, ça n'était rien. À côté de la foule, des innombrables curieux qui vont se presser le long de la vitre devant la dalle, à la morgue, le lendemain et les jours suivants. On y expose les corps qu'on a repêchés dans la Seine et tous les cadavres sans identité.
La Momière. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle d'une découverte macabre. Au mois de novembre 1876, on repêche dans la Seine, à Clichy, là où se déversent les égouts de Paris, les deux parties d'un corps de femme. Les cheveux sont coupés courts, le visage est méconnaissable. Qui est-ce? Comment identifier un corps dans de telles conditions? Qui a pu commettre un acte pareil? Pour la police parisienne, s'ouvre alors une enquête compliquée. Trois jours ont passé. Nous sommes sur l'île de la Cité, rue de Jérusalem, dans les bureaux de la Sûreté parisienne. Et comme toujours, il y a un petit peu d'agitation. Ça s'interpelle d'un bureau à l'autre, dans le couloir.
Il est où le chef ?
C'est l'inspecteur Fouqueteau qui cherche Jacob. Mais il n'est jamais là, le commissaire. Il est toujours partout, sauf dans son bureau. Fouqueteau a passé deux jours à écumer les merceries et les marchandes de linge féminin. Il n'aime pas trop ça, Fouqueteau. Et il vient de passer sa matinée rue du Sentier. Le Sentier, c'est le premier endroit où on peut trouver du tissu. Le tissu du jupon, c'est sans doute la meilleure façon de procéder, non ? Aller trouver les marchands de tissus. Mais ça ne donne rien. Reste deux ou trois morceaux de corde, solides. Mais d'où elles peuvent venir, ce sera encore plus difficile que pour le jupon. Et puis, Jacob lui a confié une autre mission. Faire le tour des couvents et des institutions tenues par des bonnes sœurs. Partout où il pourrait y avoir une religieuse qui manque à l'appel. Mais pourquoi ? faut-il que Jacob l'envoie toujours dans ce qu'il y a de pire. Et lui, le commissaire, il avait prévu d'aller faire un tour du côté de la faculté de médecine. Le chef se réserve la faculté et il l'envoie chercher les jupons et rendre visite aux bonnes sœurs, évidemment. Le chef, Étienne Jacob, il est passé du côté de la faculté de médecine. Ils ont fait le compte des corps à autopsier, les cadavres pour les exercices d'anatomie, et ça n'a donné aucun résultat. Quant au doyen de la faculté, il a rassuré le commissaire.
« Je mènerai mon enquête auprès de nos étudiants, et vous avez raison, nous ne sommes pas à l'abri d'une farce avec ces carabins. »
Jacob quitte le quartier de la Sorbonne et descend vers la gare Montparnasse. Qu'est-ce qu'il fait, le commissaire Jacob ? Il prend un billet de train. C'est plus long qu'en fiacre, mais il aime prendre le train. Peut-être parce qu'il ne peut plus rien maîtriser, et que dans le fond, ça lui fait du bien. Il est forcé de se laisser conduire au rythme de la locomotive, au rythme de la vapeur. Le train fait le tour de Paris. Le train, en attendant le métro. Il faudrait bien que Paris s'y mette comme Londres, non ? Londres a déjà son Metropolitan Railway. Jacob descend à la gare des Batignolles, pas plus grande qu'une gare de village. Il poursuit à pied jusqu'à la porte de Clichy. On n'est plus vraiment à Paris. On est déjà loin des belles avenues de la rive droite ou du charme du quartier latin. Les fiacres et les habits bourgeois font place aux carrioles et aux charrettes et aux ouvriers en sabots, en blouse. Au bout de l'avenue de Clichy, Jacob emprunte le sentier qui file entre les champs pour rejoindre la berge. Il y a moins de monde que la veille, dimanche. Ils étaient venus par dizaines, ceux qui ne voulaient pas faire la file à la morgue, ou ceux qui faisaient le grand tour, la morgue et le bord de Seine. Jacob s'approche du bord, son regard se perd dans les remous du rivage. Les détritus des égouts s'accumulent. L'eau est sale, obscure. On ne voit pas le fond. L'auteur du crime, il a compté dessus, sans doute. Mais dans les remous, dans l'obscurité, on devine du mouvement. Ça grouille, on dirait. Ce sont des poissons, comme des charognards, qui viennent ronger ce qui peut encore l'être. Peut-être qu'il aura compté aussi sur la voracité des poissons pour faire disparaître le corps. Jacob relève les yeux. Il y a plusieurs embarcations, toutes proches. Des policiers en chemise, malgré le froid, sondent les flots. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Il cherche une arme, des vêtements, et pourquoi pas des bijoux. Quoi que ce soit qui pourrait les aider à lui mettre un nom à la victime. Ou à reconstituer son histoire, ou le crime. Jacob est un policier, un gars du poste de police de Clichy.
« Alors, toujours rien, commissaire ?»
Il reste là un instant à les observer. Et puis il reprend sa marche sur le chemin de halage, vers Laval, vers Saint-Ouen. Un groupe de curieux s'approche et un vieil homme. Il est drôlement chaussé. En fait, il n'est pas chaussé. Ses pieds sont enveloppés, enserrés dans des chiffons, ficelés aux chevilles, aux jambes. Il clopine. Il approche. Il n'a pas l'air de le voir. Est-ce qu'il est aveugle ? Peut-être. Voilà qu'il le bouscule.
« Hé ! »
Le vieil homme s'excuse. Le commissaire reprend sa marche. Ses pas le mènent un peu plus loin. Il y a une maison basse, toute proche, un peu en retrait du chemin de halage. Il y a un garçon, un chiffonnier sans doute. Oui, il a sa hotte sur le dos. Jacob lui montre la petite maison.
Ça, ça c'est la maison des voleurs, on dit, monsieur. Il faut pas y aller, monsieur.
La maison des voleurs ? Jacob hausse les épaules. Il s'avance. La porte semble condamnée, alors il insiste, et elle finit par céder. Il fait sombre, on n'y voit rien. Et puis brusquement, la porte se referme. Il y a un mouvement derrière lui, mais c'est trop tard. Il ressent une violente douleur sur le crâne, et il s'écroule. Nous sommes le 14 novembre 1876. Il pleut. Les nuages arrosent copieusement Paris. La lourde porte du couvent des Clarisses vient de se refermer. L'inspecteur Fouquetot descend le perron. C'est la troisième institution dans laquelle il sort. On lui a répondu la même chose, sur le même ton, avec froideur.
L'une de nos sœurs disparue ? Non, personne ne manque à l'appel, monsieur l'inspecteur.
L'inspecteur Fouquetot s'éloigne. Il ne rejoint pas l'île de la Cité. Il s'engage dans la rue Madame, une petite rue du 6e arrondissement, dans le quartier de l'Odéon. Il s'annonce à la concierge et il monte. Une dame le fait entrer dans un appartement modeste.
« Vous connaissez le chemin, inspecteur ?»
Nous sommes dans une chambre étroite. Dans le lit, un homme, à moitié couché, est appuyé contre des coussins. Un large pansement autour de la tête. Non, non, c'est pas une scène de crime. L'homme est bien vivant. Et il a l'air content.
« Ah, Fouquetot, je vous attendais !»
Fouquetot se rend chez Jacob, tous les jours, en fin d'après-midi. Tous les jours depuis qu'il y a eu cet accident. Enfin, un accident.
Il faut les retrouver, hein, inspecteur.
Les retrouver? Est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment cherché? Fouquetot et les hommes du commissaire de Clichy ont d'abord fouillé la masure le long du chemin de halage. Ils n'ont trouvé aucune trace de personne. Et si son imagination lui jouait des tours à Jacob?
Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une brique lourde. D'accord, une brique, Fouquetot. Mais elle ne m'est pas tombée dessus. Et ma montre, elle n'est pas sortie toute seule de ma poche quand même, non?
Il ne serait pas dans cet état-là, non? Une brique qui tombe. Non, on lui a asséné un coup violent et sa montre à gousset disparue. Bien sûr qu'on lui a fait les poches. Et si ça avait quelque chose à voir avec le corps? Si ceux qui occupaient cette maison des voleurs connaissaient la femme coupée en deux? Et peut-être même plus. Le commissaire écoute d'une oreille distraite ce que lui raconte Fouquetot, ses visites dans tous les couvents de Paris et les nouvelles de la morgue.
Ils vont enlever le corps, commissaire. Il a beau faire frais, ça fait presque 8 jours maintenant.
Ils vont le mettre dans la fosse, au cimetière d'Ivry, là où on enterre les corps que personne ne réclame. Les curieux se présentent encore devant la dalle pour voir la tête de la femme coupée en deux. Les Parisiens sont déjà venus, mais il y a encore des provinciaux de passage ou des étrangers en visite en quête de sensations. Mais le temps fait son œuvre et la tête n'est plus vraiment en état d'être exposée.
On a préparé un moulage, en cire. Au moins, ce sera plus agréable à regarder.
Fouquetot ajoute.
Et la préfecture a fait faire une photographie. Ça pourra peut-être encore réveiller les mémoires.
La préfecture va faire circuler le portrait de la morte. Encore et encore. Et après? Que pourront-ils faire de plus? Jacob et Fouquetot, ils l'emmènent pas large. Jacob a beau avoir de l'expérience, il a beau avoir la peau dure, il sent que le dossier lui échappe. Et son état n'arrange rien. Fouquetot, il a peut-être moins l'expérience de l'échec. Peut-être qu'il a encore un peu de cette candeur du policier qui commence et qui croit que rien ne peut l'arrêter. « 16 novembre 1876. Nous sommes de retour, sur l'île de la Cité, quai de l'Archevêché, à la morgue. Bergeron est avec l'un de ses assistants, un préposé qui s'occupe des cadavres. Le commissaire Jacob et l'inspecteur Fouquetot viennent d'arriver. L'odeur est insupportable. Le préposé leur tend un mouchoir avec de l'eau de Cologne. Bergeron, on dirait que ça ne l'affecte pas beaucoup, lui. Question d'habitude, sans doute. Il les salue.
Tenez à vérifier l'une ou l'autre chose avant la mise en terre.
C'est la tête qui retient son attention. Il s'attarde longuement sur ses fameux cheveux, coupés courts, si courts.
Ce qui m'étonne, c'est enfin ses cheveux. On dirait qu'ils ont été coupés, disons, dans le plus grand désordre.
Ce n'est pas l'œuvre d'un coiffeur, ni même de quelqu'un qui a l'habitude de couper les cheveux. Il s'arrête soudain. Il a remarqué quelque chose. Il demande à son assistant de lui apporter une loupe. Il l'approche, tout contre le cuir chevelu. Le commissaire et l'inspecteur sont intrigués. Il s'approche, le mouchoir sous le nez. Bergeron reste silencieux, et on n'oserait pas l'interrompre. Il finit par relever la tête. Il fait signe à Jacob. Il lui tend la loupe. Et il lui désigne l'endroit à examiner.
Vous voyez, le crâne chevelu est légèrement entaillé à plusieurs endroits. On dirait de toutes petites coupures, manifestement récentes. Elles ne sont pas cicatrisées. La pointe d'un couteau ou de ciseau. Vous voyez, juste ici.
Le commissaire approuve. Oui. D'accord, mais encore. Qu'est-ce qu'il veut démontrer ?
Les blessures sont très récentes et il n'y a pas la moindre trace de sang. Les cheveux ont été coupés post-mortem, commissaire. Vous comprenez ? Si ces blessures avaient été causées par des ciseaux ou un instrument semblable avant la mort, on aurait retrouvé du sang. Oh, pas grand-chose, mais ne fût-ce qu'une trace. Une trace de coagulation, même légère. Mais ici, il n'y a rien.
C'est ça. Jacob Hoppin, l'auteur du crime, pensait que ses cheveux pourraient permettre de l'identifier. Il s'est dit, on la reconnaîtra avec ses cheveux. Est-ce que la piste de la religieuse, de la bonne sœur, n'est pas en train de se refermer? Mais que leur reste-t-il alors? Fouquetot paraît désemparé, alors que Jacob, lui, il retrouve un peu d'énergie, on dirait. Il réfléchit. Il jette un coup d'œil à cette tête tordue, devenue brunâtre et noire par endroits, la bouche grande ouverte, figée par l'horreur. Il paraît fébrile.
Fouquetot, allez à la préfecture sans plus attendre. C'est pas une photographie qu'il faut. Demandez-leur un dessin. Il la faut vivante, vous comprenez? Il faut la représenter vivante.
La Momière. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle de l'affaire de la femme coupée en deux. Malgré des recherches longues et minutieuses, le commissaire Jacob et l'inspecteur Fouquetot n'ont pas réussi à identifier la victime. Mais un nouvel examen du médecin légiste relance les recherches. Le commissaire décide de publier un portrait dessiné de la victime de son vivant. Un portrait d'elle, vivante, avant que la mort ne la défigure.
Nous sommes le 22 novembre 1876. Voilà 4 jours que la préfecture a fait imprimer et distribuer, sous la forme de cartes, pas plus grandes que des cartes à jouer, le portrait de la femme coupée en deux. Une femme au visage serein, doux, avec des cheveux. Vivante.
Vivante, oui, mais avec les yeux clos. J'avais dit vivante, mais ils ont réussi à me la faire endormie. Mais pourquoi ils me l'ont fait les yeux fermés, hein, Fouquetot ?
4 jours ont passé. Et le commissaire Jacob perd patience. La résignation le gagne à nouveau. Il aimerait bien le refermer, ce dossier-là. Et s'il faut le refermer sans l'auteur du crime, eh bien soit, mais qu'on en finisse. Qu'on en finisse ? 2 jours plus tard, Fouquetot entre dans son bureau, brusquement, sans s'annoncer.
« J'ai une bonne nouvelle, commissaire !»
Jacob lève les yeux, il interrompt son travail, il tient sa plume en suspens. Tellement que des gouttes d'encre tombent sur la lettre qu'il est en train d'écrire. Est-ce pour l'affaire de Clichy ? Mais bien sûr qu'il y pense encore, parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'y penser.
Enfin, j'ai même 2 bonnes nouvelles. Bah alors allez-y, Fouquetot !
La première, c'est la montre à gousset du commissaire. Elle est au poste de police à Clichy, avec l'auteur du larcin, un vieux mendiant, un vieil homme, qui a l'habitude de détrousser les passants.
Il a sévi à plusieurs reprises ces dernières semaines, avec tous ces bourgeois qui se sont déplacés à Clichy.
Le commissaire Jacob s'en rappelle à présent. Le vieil homme, le vieux barbu, hirsute, en guenille, les pieds emballés dans des chiffons. Il l'avait bousculé, oui, juste avant qu'il ne se dirige vers la maison des voleurs. Il l'avait bousculé et il lui avait habilement dérobé sa montre.
Ce qui signifie par contre, en effet commissaire, votre montre n'a pas été dérobée dans cette maison des voleurs et si je puis me permettre, je crois qu'il n'y avait personne pour vous donner un coup de brique sur la tête.
Mais il a mieux, Fouquetot. Mieux que ce soi-disant repère de brigand qui avait agité le commissaire au cours des derniers jours. La seconde bonne nouvelle vient d'un café. Le café Charles, du côté de Montmartre, au pied de la butte. Au café Charles, la petite carte avec le portrait de la femme coupée en deux a fait son effet.
Elle s'appellerait Jeanne Le Manac, une bretonne. Elle serait arrivée à Paris il y a un peu moins d'1 an. Elle vivrait avec un certain Sébastien Biloire. Il l'appelle l'homme aux médailles là-bas. Il s'est battu en Afrique.
Il venait souvent, elle et son homme, boire un coup de rouge ou un verre de goutte.
Mais au café, on ne les a plus revus depuis le début du mois de novembre, le 6 ou le 7. Ils ne savent plus très bien. Ils ne les ont plus revus, ni elle, ni lui. Jacob se lève. On dirait qu'il se réveille. Son œil s'illumine. Il en a oublié sa lettre et sa plume dont l'encre macule le papier. Il n'a pas l'habitude de montrer son contentement, Jacob. Mais là, ouais, si ça pouvait se terminer enfin, même si il y a encore certaines choses à régler, et non des moindres.
Je suppose qu'il reste à savoir où il se trouve, votre biloir, hein, Fouquetot ?
Fouquetot a déjà pris ses renseignements, aussitôt, et il a envoyé quelqu'un pour surveiller la maison. Biloir habite rue des Trois Frères, et il y est. Fouquetot sourit. Il a l'air fier de lui. Il n'en rajoute pas, mais oui, il est fier de lui.
Je crois qu'il n'y a plus qu'à aller le chercher, monsieur le commissaire.
L'homme qui est arrêté rue des Trois Frères ce 23 novembre 1876 est un homme d'un certain âge. Il a une bonne cinquantaine d'années. Et il n'a pas, disons, le physique de l'emploi. Il a bien un passé de militaire, oui, sans doute, mais il est plutôt petit et mince. Le commissaire et l'inspecteur sont soudain saisis d'un doute. Comment cet homme-là, ce petit homme qui n'est pas franchement un fort de foire, a-t-il pu couper cette femme, Jeanne Le Manac? Et surtout, comment a-t-il pu la transporter de Montmartre jusque Clichy, jusqu'au bord de la Seine? Le commissaire Jacob, il est soucieux. Est-ce qu'il s'est réjoui trop vite? Fouquetot s'est peut-être laissé emporter. Et le commissaire à sa suite. Et Biloir? Sébastien Biloir, que dit-il?
Ma femme m'a quitté le 7 novembre, ça oui. Mais pour le reste, non. Non, je suis pas capable de vous dire où elle est. Je serais bien content que vous me le disiez.
Il serait bien content qu'on la lui retrouve, dit-il. Oui, parce qu'elle a, enfin, elle aurait emporté l'argent du ménage, leurs économies. Chez lui, dans leur petit « chez eux » de la rue des Trois Frères, dans un petit logement de misère, qu'est-ce qu'il y a à trouver? Rien. Le commissaire, l'inspecteur et un deuxième inspecteur, ils passent tout au peigne fin. Mais il n'y a rien. Pas la moindre trace d'un crime. Pas la moindre trace de sang ou d'un instrument qui aurait pu être l'arme du crime ou servir à découper le corps. Enfin, il y a quelque chose qui... qui est étrange tout de même.
Biloir, je veux bien, votre femme est partie sans donner de nouvelles, admettons, mais aurait-elle laissé toutes ses robes, tout son linge, ses effets?
Il tient bon, Biloir. Il tient bien. Il tient tellement bien que ça pourrait ne pas être lui. C'est ce qu'on peut lire dans certains journaux qui ne manquent pas d'imagination et qui ont l'art de faire enrager le commissaire. Ce matin-là, il plaque un exemplaire du Petit Parisien sur le bureau de Fouquetot.
« Lisez-moi ça, inspecteur. Jeanne Le Manac aurait disparu avec leurs économies. Elle aurait rejoint son amant qui se serait empressé de la voler et de la tuer. Mais d'où sortent-ils ce genre d'idiotie, Fouquetot ?»
Ils ne vont plus devoir y prêter attention très longtemps, à tout ce que les journaux peuvent inventer. Dans les jours qui suivent, le commissaire Jacob et ses hommes investissent la petite maison de la rue des Trois Frères. Il y a une courette. Il y a le lieu d'aisance et la fosse en dessous. Jacob a fait venir des ouvriers. Et Bergeron est là aussi. Ils sont tous raides. Ils n'aiment pas ça. Même quand on est habitué au cadavre, à l'odeur de la morgue, on n'aime pas ça. Toutes ces matières qu'il va falloir sortir, avec un seau ou deux seaux pendant des heures, et qu'il va falloir examiner soigneusement, dans la puanteur, sous le regard dégoûté, parfois amusé, de ceux des étages et de ceux des fenêtres autour. Tout cela pour voir ces policiers et le médecin légiste examiner les excréments de la rue des Trois Frères. Ouais, mais il faut bien. Et cette fois, le commissaire respire. Il peut respirer. Ils l'ont, Biloir. Au milieu de cette tourbe nauséabonde, il y a une touffe de cheveux, plus qu'une touffe, une chevelure. Mais ce n'est pas tout. Les ouvriers, ils sortent autre chose. On dirait des restes de viscères, pas encore complètement décomposée. Peut-être un estomac ou des intestins. Voilà, la rue des Trois Frères a livré son secret, enfin. Biloire, il finit par avouer. Il avoue en pleurs. Il lâche tout. Tout ? Est-ce qu'il lâche vraiment tout ? Non. Non, il est plus finaud que ça, l'homme aux médailles.
Bah, elle est rentrée tard, elle était ivre. On a eu une dispute et elle a cassé un vase qui venait de ma mère. Alors ça m'a mis en fureur. Moi, j'ai donné un coup avec le pied dans le ventre et elle est tombée, elle était morte.
Est-ce qu'il n'est pas en train de dire qu'il n'a pas voulu sa mort ? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire qu'il n'a fait que donner des coups ? Donner un seul coup fatal ? Le commissaire Jacob n'y croit pas. Et il fait revenir Bergeron. Il se retrouve encore une fois, lui, Fouquetot et Bergeron, dans le petit logement de la rue des Trois Frères. Biloire l'a dit. Elle était morte. Il l'a laissée comme ça, et puis il s'est décidé à la couper, là, sur le sol. Le médecin légiste, Bergeron, il examine centimètre par centimètre le plancher et il a un doute.
Est-ce qu'il est envisageable de faire démonter le plancher, commissaire ?
Dans les interstices, entre les planches, il y a, on dirait, des gouttes de sang. Beaucoup de gouttes. Le sang a été répandu sur plusieurs mètres. Le commissaire essaie de comprendre.
Commissaire, pour atteindre une telle distance, le sang a dû être répandu en jet, au rythme de la puissance artérielle. Le sang ne peut être projeté de cette manière avec une telle force que lorsque le cœur bat.
Quoi, vous voulez dire que... Ce qu'il veut lui dire, ce qu'il est en train de lui dire, Bergeron, c'est que Sébastien Biloire ne l'a pas tué d'un coup de pied dans le ventre. Un coup dans le ventre ne provoque pas de projection de sang. Biloire a pris soin de tout nettoyer, de laver soigneusement. Il y avait sans doute du sang sur les murs, partout. Mais il n'a pas vraiment tout nettoyé. Jusque dans les moindres détails. Par terre, entre les planches.
Je dirais même plus, commissaire, et je suis bien désolé d'apporter ce genre de précision, disons macabre, mais vu que le corps, dans chacune des deux parties que nous avons retrouvées, ne présente pas la moindre plaie, et que les viscères ne présentent pas la moindre trace de poison, je crois pouvoir vous dire que votre homme a peut-être découpé la victime alors qu'elle était encore...
Jacob lui fait signe qu'il a compris. Que ça ira comme ça et que ce n'est pas la peine d'en savoir plus. Pour l'instant, la cour d'assises, les jurés, ils apprécieront. Oui, certainement. Sébastien Biloire est renvoyé devant la cour d'assises de la Seine au mois de mars 1877, condamné à mort. Il est guillotiné le 26 avril 1877 devant la prison de la Grande Roquette, à deux pas du cimetière du Père-Lachaise.
La Momière. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Jean-Louis Lahaye.
Jérôme de Breuer, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Vous enseignez l'histoire du droit et de la justice à l'ULB. Dans cette histoire, c'est d'abord et presque essentiellement l'identification de la victime qui pose problème aux enquêteurs. Et pourtant, bon, elle est coupée en deux et les cheveux sont coupés eux aussi, mais elle devrait pouvoir être identifiée, non ?
Les moyens de l'identification d'une victime sont assez compliqués à l'époque, au XIXe siècle. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Comme vous l'évoquez dans votre récit, les corps qui sont retrouvés, et ils sont nombreux à être repêchés dans la Seine assez régulièrement, ces corps sont exposés à la morgue, quai de l'Archevêché à l'époque, à la pointe de l'île de la Cité, et ils sont exposés au public sur la dalle, on les voit à travers la vitre, en vue de leur identification, ce qui est évidemment tout à fait particulier et qui constitue une attraction en réalité pour les Parisiens et ceux qui se rendent à Paris.
Oui, une attraction assez morbide quand même. C'était quoi ? C'était la mentalité de l'époque ?
C'est la mentalité de l'époque, c'est la sensibilité de l'époque, et à la fois, on remarque qu'on assiste à un changement, à un tournant. La photographie apparaît, comme vous le mettez en scène également dans votre récit. Le visage de la personne décédée, de cette personne qui est retrouvée dans la scène, est reproduit en vue d'être diffusé dans l'ensemble de la population parisienne, pour faciliter l'identification.
Et puis il y a des moulages en cire aussi.
Là, évidemment, il ne s'agit pas d'un moyen de diffusion du visage inconnu, mais il s'agit s'agit d'un moyen de maintenir, de conserver un visage. Hein. Je vous rappelle que le visage se décompose semaine après semaine et que tant qu'il n'est pas identifié, eh bien, c'est le visage de cire qui va permettre le prolongement de cette identification.
Merci Jérôme Dobreuer et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 36 Quai des Orfèvres.
La première.
Un crime, une histoire. 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.